Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a jamais fait mystère de son enthousiasme pour les films de braquage. C'est assez commun quand on vit dans un respect à peu près fidèle des règles qui organisent notre vie en société d'être par ailleurs un tant soit peu fasciné par ceux qui ont choisi une autre voie, celle qui consiste à évoluer en dehors des clous de notre amour pour les braqueurs, les voleurs, les truands, enfin ceux de la fiction en tout cas. Et c'est donc avec cette bienveillance naturelle à l'égard des criminels du cinéma que nous avons accueilli Les Veuves, nouveau film de Steve McQueen dont on va causer tout de suite avec un trio de Montolaires de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné épisode 162 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Les Veuves, Widows en VO, comme son nom l'indique, une histoire de femmes, quatre épouses de braqueurs qui, lorsque leurs voyous de conjoints sont zigouillés durant un braquage qui tourne mal, se voient obligées de prendre le relais des défunts dans le grand banditisme pour éponger la dette qu'ils ont contractée auprès d'un parrain mafieux peu recommandable qui, pour ne rien arranger, trempe dans les magouilles politiciennes.
You have no idea, do you? What did you choose not to know? Your husband stole $2 million from me.
This is about my life. This is about my life.
And because it's about my life, now becomes about yours.
Le film est signé, on l'a dit, par le Britannique Steve McQueen, réalisateur primé de Hunger, Shame et bien sûr 12 Years a Slave, c'est pas facile à dire, qui a décroché l'Oscar du meilleur film en 2013. Au casting de ses veuves, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, qui sont nos quatre héroïnes, accompagnées pour l'occasion entre autres par Colin Farrell, Liam Neeson, Robert Duvall ou encore Brian Tyree Henry et Daniel Kaluuya, qu'on avait découvert lors de la sortie de Get Out l'année dernière. Votre avis sur ces veuves, les amis, comme le veut la tradition? Je vais donner la parole à Julien Dupuis qui est autour de cette table.
Ouais, c'est une tradition qui a été brisée depuis bien longtemps.
Oui, qui a été brisée, puis qui revient. Voilà, ça dépend. Julien.
Moi, j'ai pris un pied phénoménal. J'adore en fait quand un auteur, un mec très très respecté. Ose se plier en fait au genre et l'aborde sans distance, avec une honnêteté complète, et parvient malgré tout à conserver ce qui fait sa spécificité.
À conserver,
oui, c'est mon côté allemand, mais à conserver ce qui fait sa spécificité, quoi. Et moi, j'ai retrouvé ça en fait dans Les Veuves. Je pense que la meilleure façon de le vendre, c'est peut-être ça, c'est de dire c'est d'abord et avant tout un super film de braquage. Je sais pas, parce que finalement le braquage a une petite partie. En tout cas, c'est un vrai film noir, un vrai polar
gangster, ouais.
Qui prend quand même des chemins de traverse, mais qui est vraiment investi, incarné. Je vois à ça plusieurs raisons. Je pense que déjà Steve McQueen, il a cette faculté quand même d'incarner vraiment ses personnages. Ça, on l'avait vu auparavant. Je pense aussi que c'est un sujet qui l'habite, c'est-à-dire que c'est adapté d'une série anglaise que moi je connais pas du tout.
Il a des années 80, je crois.
Ouais, mais avec ITV. Laquelle il a grandi en fait, et lui il se projetait en fait dans ces personnages de femmes qui étaient un peu sur la touche, qui devaient faire leur preuve en fait dans un milieu qui ne leur était pas du tout familier finalement. Et qui a un milieu extrêmement dur. Et lui, il se voyait en fait là-dedans, il se projetait là-dedans. Et ça se sent, enfin voilà, c'est ces personnages qui existent vraiment et qui, au-delà de toute la posture des films hollywoodiens faussement féministes qu'on a pu voir dernièrement, bah là, il y a des vrais personnages. C'est-à-dire qu'il les prend pas parce que c'est des femmes, en fait. Il les prend parce que c'est des beaux personnages, quoi. Et ça, j'aime ça. Il renie pas du tout le fait que ce soit des femmes pour autant, mais voilà, c'est un fait, c'est comme ça, quoi. Il y a autre chose, enfin, il y a beaucoup de choses, je vais rebondir après peut-être sur ce que vont dire mes collègues, mais il y a un autre truc aussi qui est un peu plus accessoire, mais que j'aime beaucoup aussi dans le film, c'est que c'est un film aussi entre guillemets, d'urbaniste. C'est-à-dire que le cinéma, c'est aussi l'art de l'espace. Mmh. C'est comment tu investis un espace, comment tu le filmes, comment tu l'appréhendes, comment tu le déstructures, comment tu offres un point de vue, en fait, sur cet espace-là. Et je trouve ça génial, moi, quand un réalisateur réfléchit à un décor dans sa globalité, là, en l'occurrence, une ville, et en l'occurrence, Chicago, et réfléchit à la façon dont la ville fonctionne, en fait, de façon viscérale, comme si c'était c'est une lapalissade, hein, mais c'est comme si c'était un personnage, mais littéralement, quoi. Il y a un vrai point de vue là-dessus, une vraie réflexion, et qui est en plus parfaitement intégrée, encore une fois, à la narration. C'est-à-dire, c'est pas factice, quoi. C'est pas posé là, en plus, comme une sous-couche. Ça fait partie, en fait, de l'ADN, si j'ose dire, en fait, du film. Il y a notamment un plan, c'est peut-être l'exemple le plus éloquent, en fait. Il y a un plan séquence qui suit le personnage de Colin Farrell, qui est donc un politique, en fait, qui va de meeting en meeting, et il est en train de donner un discours, en fait, dans un quartier défavorisé. Il monte dans sa voiture, il y a une discussion dans la voiture, tu restes avec lui dans la voiture de l'extérieur, tu entends la discussion, et il arrive, en fait, dans son QG de campagne, qui est à l'orée, en fait, de ce quartier-là, mais qui est dans une zone beaucoup, beaucoup plus chic et cossu. Et c'est formidable, en fait, cette séquence, parce que tu vois la césure déjà du mec entre le milieu qu'il est censé défendre et là où il vit, là l'endroit où il appartient. Ça te pose aussi la spatialité, en fait, de ce lieu-là pour la scène de casse ultérieure. C'est-à-dire que ça a une fonction aussi narrative très basique, en fait, comme ça. Et puis, ça te permet aussi d'appréhender Chicago d'une façon extrêmement, physique, en fait. J'allais dire tactile, mais c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, physique, t'as l'impression tu déambules vraiment là-bas. Sa scénariste, alors son nom m'échappe, c'était la scénariste de Gone Girl.
Lillian Flynn.
Lillian Flynn, voilà, elle vit, en fait, à Chicago. Je pense qu'elle est aussi, pour beaucoup, en fait, dans cet aspect, en fait, du film, dans la réussite du film. Voilà.
Périne.
Oui, c'est vrai que cette scène-là, il y a énormément de scènes démentielles dans le film de Steve McQueen. Mais c'est vrai que cette scène-là en particulier dont je viens parler, c'est vrai que voilà, on a une notion de la spatialité. Surtout, le plan dure le temps de cette conversation qu'on a l'impression d'écouter, mais d'écouter en épiant, en fait, oui, cette conversation où lui-même se révèle être autrement que l'image qu'il donnait jusqu'à présent. Et en même temps, on voit cette proximité entre les quartiers, parce que clairement, c'est l'affaire d'un dialogue de 3-4 minutes. Et littéralement, on fait la route en 3-4 minutes, de montrer la proximité entre ces quartiers qui, soi-disant, ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas se comprendre, ne peuvent pas dialoguer. Et en fait, ils sont côte à côte, quoi. Enfin, littéralement, c'est la guerre des tranchées, quoi. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment très, très fort. En effet, sur ce que dit Steve McQueen de Chicago, parce que lui, c'est un auteur britannique, un réalisateur britannique, encore une fois, et c'est vrai que finalement, Les Veuves, c'est un peu son film le plus, on pourrait dire, le plus commercial, si on veut, c'est-à-dire le plus accessible d'une certaine façon, puisque que ce soit Hunger, Shame ou 12 Years a Slave, c'était des films assez durs, avec une mise en scène très très forte, des films assez durs, des films avec un sujet très très fort. Souvent, il utilisait d'ailleurs la dureté des images pour mettre le spectateur dans une position de franc malaise, mais aussi pour que ce malaise crée de l'empathie, en fait, de la part du spectateur vis-à-vis d'un sujet auquel il peut plus ou moins, peut pas vraiment s'identifier, c'est-à-dire le combat d'un résistant irlandais ou de, enfin, peu importe, c'est des choses que potentiellement on ne connaît pas, ou la position d'un esclave à l'époque, enfin aux États-Unis il y a quelques, malheureusement quelques années, enfin voilà, c'est des choses qu'on peut pas forcément comprendre, mais il mettait, voilà, le spectateur dans cette situation là et là il va réutiliser, donc, d'une certaine façon, cette capacité d'empathie qu'il arrive à créer chez le spectateur, à faire ressentir les choses avec ces quatre femmes, enfin ces veuves. Elles sont absolument incroyables, et je suis d'accord avec Julien, c'est qu'elles sont fortes, mais elles sont fortes pas parce qu'il faut faire des femmes fortes, c'est-à-dire qu'elles sont fortes par les circonstances. Oui. C'est des femmes qui, jusque-là, vivaient sous la coupe de leur mari, etc. Oui. Et donc, quand on parle d'un film, on disait que voilà, Ocean 8, c'est un film d'empowerment. Non, Ocean 8, c'est pas du tout un film d'empowerment. Ça, c'est un film sur l'empowerment. Ça, c'est un film qui explique à un moment donné ce que c'est que la nécessité pour une femme d'être en capacité de ses moyens, d'être en capacité de se gérer toute seule, d'être en capacité. Je suis en train de bouffer mon micro. D'être en capacité, en tout cas, mais d'être en capacité à un moment donné de ne pas dépendre, d'être indépendante. Et indépendante, ça veut pas dire d'être seule. Ça veut juste dire d'être capable de s'assumer seule. de ne pas devoir dépendre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est très très beau, là, l'évolution des personnages, l'évolution de ces femmes qui, par exemple, le personnage principal qui est Viola Davis, qui est incroyable, hein, qui sort pas des masses de son rôle de How to Get Away with Murder, la série How to Get Away with Murder, où elle a un rôle comme ça très très dur aussi, on a l'impression que ses yeux, c'est un flingue avec un double barillet, enfin vraiment, elle fait un peu peur. Et elle a ce personnage qui est dans un deuil absolu, elle était folle de son mari, elle est un personnage qui s'était aveuglé à force d'aimer son mari, de pas vouloir voir ce qu'il était capable de faire à côté. Et tous ces personnages-là qui vivaient dans un monde ont été extraits de cette bulle-là, de force, et vont devoir se prendre en main. Et je trouve qu'elles sont incroyablement dépeintes, et surtout, ce qui est très bien, c'est qu'avec les films de les cape movies, les heist movies comme ça, on a plutôt... faut que ce soit un peu fun, on s'imagine un truc un peu fun, on attend le braquage, on attend le montage du braquage, etc. Ça, en fait, c'est pas tellement ce qui intéresse des masses en vrai. Steve McQueen, même s'il y a un petit peu de ça, mais c'est encore une fois pas ce qui l'intéresse. Il y a une énorme part politique, il y a une énorme part d'observation de Chicago, qui est absolument brillante, du monde intrinsèquement lié de corruption, de racisme et de politique à Chicago, c'est sublime. Et en même temps, il a pas peur de faire pleurer, c'est-à-dire qu'il a pas peur d'aller dans la tristesse et la mélancolie. C'est hyper beau de n'avoir à aucun moment peur des sentiments, mais pas un sentiment pour faire chialer dans les chaumières, juste à un moment donné de dire, au bout d'un moment, c'est normal de souffrir, c'est normal d'être triste. C'est hyper beau ce qui arrive à faire Steve McQueen, et même si c'est son film le plus accessible, je pense que c'est aussi presque son film le plus complet.
Stéphane,
tout ça c'est vrai. Je suis étonné, mais c'est normal, hein, parce qu'en fait le film s'en détache complètement, mais c'est quand même une ombre qui est là au tout début, pas au tout début du film, mais on va dire que moi ça m'a fait penser. Il y a cette scène dans qui à l'époque m'avait énormément marqué dans Heat, juste après le braquage où tu viens de te bouffer la scène quand même mouse du film, ce moment en fait où on te montre justement toutes les veuves de chaque braqueur qui découvrent à la télévision en fait que leur mari s'est fait tuer, et en fait il y a une espèce d'empathie à ce moment-là qui ressort sur ces personnages-là, qui c'était très succinct dans les femmes sont là, hein, elles sont vraiment dans toute l'histoire, c'est mis en place, mais je me rappelle que ce moment-là en fait c'était un moment clé parce que t'arrivais après ce qui était censé être en gros une scène d'action et dramatique ultra forte, et c'était le coup de grâce en fait émotionnel, et quelque part en fait j'utilise cet exemple-là pour dire c'est un peu ce qu'essaye de faire le film sur 2 heures, mais pas que. C'est-à-dire que le film, là où je trouve, parce qu'il s'en détache finalement de Michael Mann, c'est quand même un peu le aujourd'hui en fait quand tu fais un polar urbain aux États-Unis, c'est quand même très très difficile de sortir de cette influence-là, voilà. Et celle-là spécifiquement en fait. Oui. Mais il y a ce truc en fait avec ce film, Les Veuves, c'est que c'est extraordinairement bien écrit. Il y a effectivement les 4 personnages féminins qui sont très très bien écrits, mais il y a aussi tous les petits personnages secondaires en fait qui vivent en 2 descriptions. C'est-à-dire que, et c'est pas que les femmes, c'est tout le monde vraiment, c'est tous les personnages, que ce soit l'homme de main qui est interprété par Daniel Kaluuya, que ce soit le chauffeur en fait de Viola Davis qui existe en 3 trucs. Il a c'est un mec qui est pas très futé, pas très brillant, mais qui est loyal, qui le dit, je suis pas très malin, moi, vous savez, j'ai pas... Et en fait, tu comprends 3 scènes plus loin, en fait, que bah, il a des cachetons, tu vois, enfin, c'est des conneries comme ça, c'est vraiment des petits détails, en fait, qui te rendent le personnage hyper touchant. T'as, par exemple, un personnage qui se greffe aux veuves, en fait, qui est une babysitter slash coiffeuse, et en 2 trucs, en fait, il te la présente de manière complètement dingue, où elle se met à tracer pour attraper un bus, et tout le monde elle passe dans son quartier un peu pourri, et tout le monde lui gueule dessus.
Enfin, il est invectif, quoi, surtout.
Voilà, c'est ça. Et quand on parle, alors que la meuf, c'est une force de la nature, tu vois.
C'est génial, parce que le côté politique, enfin féministe, entre guillemets, du truc, il passe là. C'est-à-dire que la nana, elle se fait agresser dans le truc, mais elle s'en fout, elle trace et tout.
Et surtout,
tu t'appesantis pas
dessus. Tu sais pas pourquoi elle fait ça. Tu te dis qu'il y a un enjeu énorme à ce moment-là. Et en fait, c'est tout bête. Il faut qu'elle arrive à temps pour son babysitting. Et c'est juste un truc où tu vois comment la nana fonctionne.
Il y a une nécessité d'argent, c'est ça qui est incroyable.
Mais c'est ça qui est fort, c'est-à-dire que tu penses que c'est un enjeu qui est beaucoup plus fort que ça. Et en fait, si tu veux, c'est un truc trivial parce que c'est le quotidien, c'est ce quotidien de cette nana-là, et elle se débat avec ce quotidien-là. Il y a le plan séquence dont vous avez parlé tous les deux. C'est il y a aussi ce truc que moi je trouve formidable. C'est pas seulement la description du quartier. C'est pas seulement la description des enjeux politique et sociopolitique. Il y a aussi ce personnage en fait de la femme qui est la PR en fait, la public relation, l'assistante de Colin Farrell, qui on ne la voit pas hein, à ce moment-là puisque en fait c'est tout est filmé de l'extérieur comme ils l'ont décrit. Pour la première fois en fait, elle ressort de son rôle, c'est-à-dire hyper policée, hyper propre où elle doit l'assister. Pour lui pourrir la gueule en fait, ouais. Pour lui dire en gros tu vas arrêter de se faire chier, tu vas prendre ça comme un homme et c'est ton job, donc t'arrêtes tes conneries. Et en fait l'idée qu'on te le montre pas, c'est ce qui renforce encore plus en fait sa personnalité à cette à ce personnage qui est encore une fois un personnage secondaire qui ressort voilà. Et t'as plein de trucs comme ça en fait, c'est-à-dire que ce qu'il arrive à faire en fait en faisant ça, c'est qu'il arrive à rendre ses personnages vraiment magnifiques, c'est-à-dire vraiment beaux. Moi je reprocherais peut-être, si je devais reprocher quelque chose, ça serait un twist qu'on voit un peu venir, moi je trouve voilà, mais qui est pas très c'est pas très grave en fait, c'est-à-dire que en gros c'est pas grave parce que je trouve ça un peu zanti un tout petit peu sur les trucs, c'est pas super verrouillé. J'aurais préféré effectivement qu'il se concentre un peu plus sur le braquage, pas forcément pour faire un film de braquage hein, mais plus en fait parce qu'il a une vraie mécanique huilée dans son fonctionnement aussi d'écriture. Et voilà. Et le truc que je voudrais dire aussi sur ce film, c'est que moi, je connais pas du tout le cinéma Steve McQueen. Et en fait, déjà, j'étais super content en voyant le film, en disant bon bah j'ai un cinéaste à découvrir. Maintenant, j'allais me faire tous ses films, même si ça ressemble pas à ça. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant. Et effectivement, il incarne son récit quoi. Mais il y a aussi ce truc qui me manque énormément au cinéma actuellement. Il y a cette notion en fait que le cinéma entre guillemets adulte. Qui traite de je sais pas, de l'intimisme ou ce genre de choses, du quotidien, de tout ça. En fait, ça marche plus au cinéma, ça marche que dans les séries télé. Et j'ai pas de problème dans l'absolu avec l'écriture des séries télé, mais l'écriture des séries télé, elles ont le luxe de développer des personnages, d'écrire effectivement des rôles complexes, etc., etc. Et ça existait au cinéma avant, ça existait, et je ne comprends pas pourquoi en fait d'un seul coup ça ne devrait plus exister parce que le cinéma, la télévision s'en est emparée. Sauf que lui, il le fait, et bon, c'est une discussion qu'on avait eue un peu à l'époque où on a enregistré sur Predator, sur la nécessité en fait de créer un personnage, et qu'est-ce qui suffit pas en fait pour créer l'empathie. Et voilà, le truc en trois coups de cuillère à peau, en fait en trois idées, il t'incarne. Moi, la première fois que tu vois Viola Davis, tu comprends tout de suite que c'est une femme homose parce que c'est pas techniquement, c'est pas un canon de beauté, c'est pas le critère de beauté général, mais tu la vois au lit, elle est aimée par quelqu'un, elle aime ce quelqu'un, tu comprends tout de suite la scène et t'es touché instantanément, c'est la première scène que tu vois, et c'est un truc, c'est hyper fort en fait, parce que juste effectivement il va l'incarner et ça donne le là pour, enfin ça donne le là pour tout le personnage. Et c'est comme ça pareil, il y a la présentation des veuves au début, elles sont encore avec leur mari. Il y a ce truc où tu vois, alors je sais plus qui est l'actrice, c'est une jeune blonde.
Elisabeth Debicki.
Voilà, merci. Où tu vois qu'elle a un œil au beurre noir. Tu dis ok, bon, bah, elle se fait frapper, tu vois. En face, alors, en fait, il y a son mari. Son mari lui dit, ah, vas-y, tu me fous la honte, maquille-toi. Tu dis ok, c'est un gros con, tu vois. Ils ont un échange, elle est un petit peu, tu vois, voilà. Et puis, en fait, ils se tombent dans les bras et tu dis ok, d'accord, en fait, donc leur relation, elle est toxique, elle est pourrie, mais ils s'aiment. Donc tu comprends d'un seul coup le personnage. Ensuite, elle est elle-même drivée par sa mère qui est une espèce de manipulatrice pervers narcissique absolument incroyable qui où tu comprends en fait qu'elle a grandi dans cette idée qu'elle doit être séductrice et qu'elle doit plaire et absolument s'abaisser à son mari. Et t'as compris le personnage. Donc tu te dis, alors j'espère qu'on va pas aller dans le cliché. Non, en fait, d'un seul coup, elle se révèle extrêmement intelligente. Et en fait, il y a tout un tas de trucs comme ça où voilà, c'est fin. En fait, c'est fin dans l'écriture et t'as pas besoin de 15 épisodes de série télé pour y arriver, quoi.
Il faut dire que c'est super jouissif. C'est-à-dire que c'est un vrai. Pour moi, hein, c'est un vrai film du samedi soir quand même. Mais c'est un film du samedi soir, encore une fois, avec des vrais personnages incarnés avec toute leur complexité et qui fait confiance au spectateur. C'est un film qui file droit, en fait. Et c'est en filant droit et rapidement, parce qu'il y a un super tempo. Moi, je me suis pas ennuyé une seconde hein, dans le film, que tu chopes, en fait, quelques détails là, par-ci, par-là. D'un coup, t'es dans le rapide, puis tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Et tout, puis tu chopes un ou deux éléments, et puis petit à petit tu remontes le puzzle, t'es sans arrêt sollicité. Je pense que c'est aussi pour ça que d'ailleurs que tu t'ennuies pas. C'est un film qui est galvanisant en fait à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que, et c'est vrai que c'est assez rare en fait de voir des films comme ça aujourd'hui, mais hier aussi, hein, finalement. Hein. C'est vraiment c'est un vrai plaisir en fait. Faut le dire, je pense, parce qu'on parle beaucoup du fond et tout, parce qu'il y a beaucoup de fond, il y a beaucoup à dire sur le film, mais c'est un vrai plaisir aussi de spectateur, quoi. Voilà.
C'est vrai, je crois. Le film, il dure combien de temps? Il dure
2h10.
Ouais. Et ben, en 2h10, il raconte un nombre de choses, parce qu'on parle de ses veuves, mais ce que ça dit aussi sur leur mari, ce que ça dit sur le Chicago, sur le système politique, sur ces deux personnages de politiciens que représentent Colin Farrell et j'ai oublié le personnage qui fait Jamal, mais enfin, en soi, peu importe ce que ça dit sur chacun de ces personnages, que ça dit du fonctionnement.
Brian Tyree Henry.
D'accord. Eh bien, comment ça fonctionne à l'intérieur de cette ville, etc. En 2h10, je suis désolée, on a des blockbusters qui durent 2h30, 2h40, qui racontent 100 fois moins de choses que ça, en fait. C'est terriblement dense, donc fascinant, et il n'y a pas une seconde. Il faut vraiment être éveillé pour le voir, parce que ça demande beaucoup de concentration quand même. Mais moi, ça m'a demandé quand même pas mal de concentration.
Pas un film exigeant, des trucs d'auteur et tout, mais c'est tellement bien fait, en fait.
Pas exigeant. Dans ce sens-là, c'est juste que pour avoir toutes les informations, et puis même pour jouir de toutes ces informations-là, il fallait que je reste un petit peu éveillé. J'aurais pu aussi moins suivre et juste prendre ce qui venait, mais si tu as envie d'avoir les informations, et elles sont toutes pertinentes, elles sont toutes fascinantes, il faut être un petit peu éveillé. Mais par contre, ça reste un plaisir de narration que j'avais pas eu depuis très longtemps, c'est sûr.
Pour terminer, chers amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandation, pas nécessairement dans le domaine du film de gangster, dans le film noir ou au film de braquage. Vous savez que vous êtes libre de proposer ce que bon vous semble. Julien.
Julien,
c'est
ça.
La 150e fois que tu viens dans l'émission.
Alors attends, il y a un autre réalisateur noir, il s'appelle Spike Lee, il avait fait Inside Man, là c'était pas mal aussi, c'était un truc de braquage, tout ça, qui se passait à New York, tu sentais vraiment la vie.
C'est moche ce que tu viens de faire.
C'est super moche, voilà. C'est super léger, super honte. Est-ce qu'on peut passer à Perrine tout de suite?
D'accord, très très bien. Perrine.
Moi, je reste sur le braquage et je reste sur les filles. Je suis avec Spring Breaker d'Harmony Korine, ouais. Pour le coup. Et pareil, on a ces quatre jeunes filles qui cherchent à s'émanciper, elles aussi, mais pas du tout pour les mêmes raisons que les personnages des veuves. Mais elles s'émancipent parce qu'elles sont jeunes, qu'elles veulent vivre leur vie, qu'elles veulent casser certains codes dans lesquels elles ont grandi. Elles le font pas forcément de la meilleure des manières, ça va pas forcément très très bien se finir, oui. mais c'est coloré, c'est violent, c'est vivant, c'est assez incroyable ce qu'avait fait Harmony Korine.
C'est là où il y a James Franco déguisé en rappeur avec
exactement
des dreadlocks et des fausses dents.
Exactement, et qui nous chante du Britney Spears au piano avec les deux gamines de Disney Channel. Donc en fait, le film venait péter pas mal de choses et c'était assez jouissif et assez cathartique, tout en ayant cette notion aussi étonnamment comme dans Les Veuves de mélancolie et de tristesse.
Stéphane.
Moi je trouve que c'est difficile parce que ça existe plus trop en fait, ce genre de truc, et si tu veux voir un truc
tu peux recommander complètement autre chose.
Voilà, je sais, j'y avais réfléchi, puis en fait je me suis dit bon, finalement les films n'ont rien à voir, hein. Je vais pas faire comme Julien, faire un espèce de coller les bouts comme ça là, mais c'est pas un super bon film, mais par contre c'est un film qui reste, et c'est un film qui reste à cause d'un personnage très fort et d'une actrice très forte, et c'est Foxy Brown et avec Pam Grier qui elle aussi en fait doit venger, enfin plus ou moins se sortir d'une histoire qui est liée à son braqueur de mari qui s'est fait tuer, quoi. C'est beaucoup plus exploitation, hein, c'est beaucoup moins
tu dis ça aussi parce qu'elle est noire, alors du coup
voilà,
c'est pour ça que je
me suis défoncé sur toi, quoi. Et non, mais juste pour dire que c'est un personnage, déjà t'as un score incroyable de Willie Hutch. Et t'as un personnage en fait de femme forte, alors qui est beaucoup plus pétroleuse là pour le coup, avec des fusils à pompe et des machins, etc. Mais qui est vraiment chouette et qui a lancé la carrière de Pam Grier. Enfin, elle avait fait Coffee déjà aussi à l'époque, quoi. Qui a lancé la carrière de Pam Grier, et comme j'aime beaucoup Pam Grier, bah voilà, je conseille ça, même si encore une fois.
Pam Grier, si tu nous entends.
Pam, si tu nous entends, tu peux venir.
Si tu parles français.
À nos ciné, quand tu veux, je suis sûr qu'elle parle français. C'est une femme qui a beaucoup de qualité. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules et la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions. Et puis on vous dit à très vite.
Rosebud. Binge.
Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, que les acheter et pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
Hold up.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.